Frères et sœurs bien-aimés, le mystère qui nous voit réunis en ce jour est celui de l'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation de la gloire de Dieu. Si dans la tradition orientale, cette épiphanie divine est manifestée au moment du baptême et des noces de Cana, dans notre tradition latine, c'est le récit de l'adoration des mages qui célèbre l'universalité du salut. Pour cela, la visite des mages doit être mise en parallèle avec celle des bergers. Les bergers à la crèche, au soir même de la nativité, sont les représentants de la foi d'Israël qui attend, depuis le péché d'Adam, la venue, la survenue même, du Messie de Dieu. Si dans l'histoire sainte il y a eu différentes figures du roi Messie, voilà que Dieu, se faisant homme tout en demeurant Dieu, dépasse l'espérance d'Israël et en accomplit chacune des promesses. Les bergers à la crèche sont donc les premiers témoins de la foi juive qui viennent reconnaître en Jésus, le Fils de Marie, le Fils du Très-Haut, le Verbe de Dieu fait chair. Pour cela, les bergers ont été avertis, non pas par une étoile, mais par un ange. Et cet ange leur a parlé alors qu'ils étaient dans leur champ, leur donnant un signe. Si l'ange leur a parlé, c'est parce que, détenant la foi juive, ils parlent le langage de la foi, celui des prophéties qui s'accomplissent au soir de la nativité. En revanche, ces mages, les saintes Écritures, nous précisent qu'ils viennent d'Orient. Ils sont donc les représentants des nations païennes, ces nations étrangères à la foi juive, mais tout autant que les fils d'Israël, destinataires du salut, destinataire de la bonne nouvelle qui s'accomplit en Jésus-Christ. Ne parlant pas le langage de la foi, un ange ne s'est pas adressé à eux, mais un signe leur a été donné, celui d'une étoile. Une étoile à nul autre pareille. Une étoile qui se lève, qui les précède, qui disparaît, qui réapparaît, et qui finit par se poser au-dessus de la maison où se tient la bienheureuse Vierge Marie en Nouvelle-Ève, qui leur présente le nouvel Adam. Le signe de l'étoile habite les saintes Écritures. Lorsque Abraham va recevoir son nom d'Abraham et devenir l'origine, pourrions-nous dire, de l'Alliance, Dieu lui dit qu'il va être, dans la foi, le père de toutes les nations. Et pour montrer à Abraham sa descendance immense, le Seigneur lui donne le signe d'un ciel étoilé. « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. » Voilà que dans l'histoire sainte, après la libération du peuple en Égypte par Dieu, voilà que le peuple élu, après la traversée du désert, arrive en terre promise et va devoir traverser les territoires du roi de Moab. Moab n'est pas enchanté de voir un peuple aussi nombreux venir piller, pourrions-nous dire, ses richesses dans sa traversée. Il envoie donc le prophète païen Balaam pour maudire ce peuple. Et Balaam précise au roi de Moab qu'il ne fera que la volonté de Dieu. Et voilà que l'ange du Seigneur, muni d'une épée, menace Balaam de ne pas maudire le peuple. Et contre toute attente, ce prophète païen bénira par trois fois le peuple élu, alors qu'il recevra du Seigneur une prophétie qui habite cette foi mystérieuse des mages. cette prophétie est la suivante. De Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre. C'est dans l'attente de l'accomplissement de cette prophétie à travers les âges que ces mages ont vu cette étoile se lever, accomplissement de la bonne nouvelle faite à leur père, et voilà qu'ils se mettent à la suite de cette étoile pour aller adorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est notre grand Dieu, celui qui s'est fait tout petit pour révéler à l'homme sa véritable grandeur, qui n'est pas ici-bas sur la terre, mais dans la Jérusalem d'en haut. Alors que nous contemplons l'enfant Dieu présenté par la Sainte Vierge, nous ne pouvons qu'éprouver cette joie immense qui a envahi les mages, car nous sommes de la descendance des mages, nous qui ne sommes pas habités par notre sang, par notre chair, par notre mère, de la foi juive, nous qui venons des nations païennes, nous ne pouvons que rendre grâce pour le don de la foi. Une foi qui se manifeste non seulement aux fils d'Israël, mais à chacun d'entre nous, fils d'Abraham, le père des croyants. Lorsque Hérode voit arriver ses mages à Jérusalem, on nous dit que celui-ci est bouleversé. Il faut dire qu'Hérode est aussi juif qu'un Samaritain sait tout dire, un cousin germain, mais bien loin d'être un véritable juif, éduqué à Rome et ayant obtenu la couronne par un vote unanime du Sénat romain en raison des nombreux cadeaux que celui-ci a offerts non seulement à Antoine, mais également à l'empereur Octave. Lorsqu'il apprend par des rois étrangers, des mages étrangers plutôt, qu'ils viennent parce que dans le ciel s'est levée une étoile annonçant la venue du roi des Juifs, celui-ci est pris dans son orgueil. Car il sait bien qu'il n'est pas un roi légitime, sa famille ne vient pas d'une dynastie royale comme celle de Saint Joseph avec le roi David. Bouleversé et avec lui tout Jérusalem, il s'adresse aux spécialistes de la loi et aux grands prêtres qu'il a pourtant bien malmenés dans son règne pour savoir où devait naître l'enfant. En répondant au roi Hérode que selon les saintes écritures, il devait naître, du moins passer par Bethléem, les grands prêtres et les scribes ne lui révèlent pas l'ensemble de la prophétie. Puisque la prophétie précise, « Toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira un roi pour paître mon peuple Israël, et ses jours sont depuis les jours de l'éternité. » Si Hérode avait reçu la prophétie en plénitude, il n'aurait pas eu peur pour sa couronne temporelle, puisqu'il ne s'agit pas de recevoir un roi d'ici-bas, mais le roi d'en haut, le Seigneur des Seigneurs. Le Christ que nous contemplons en cette fête de l'Épiphanie est donc pour nous le signe de la royauté. Cette étoile est bien le signe de la royauté, car l'étoile est pour Israël ce que la fleur de lys est pour la France, le symbole de la monarchie. L'étoile de David, qui aujourd'hui encore est sur le drapeau d'Israël, symbolise cette souveraineté. Et voilà que l'étoile, en se posant au-dessus de la bienheureuse Vierge Marie, présentant l'enfant Dieu, nous présente et la reine du ciel et le roi des cieux incarné dans le Christ. Il est le Seigneur, nous devons donc lui être soumis dans la foi. Et alors que nous avons nous aussi à être guidés par l'étoile de la foi, alors que les Écritures nous présentent le Christ comme l'étoile du matin, nous avons à resplendir dans notre âme de toutes les vertus qui ont habité et Notre-Dame et le Christ. C'est ce que nous leur demandons en cette messe aujourd'hui. Nous avons à être en ce monde les étoiles scintillantes qui conduisent au bon Dieu et qui portent l'espérance de cette bonne nouvelle qui s'accomplit. Car le mystère qui nous voit aujourd'hui réunis, celui dont saint Paul nous dit qu'il est commun à toutes les générations et à tous les hommes de tous les temps, de toutes les nations, n'est pas encore pleinement accompli. Lorsque nous verrons, nous dit le livre de l'Apocalypse, le soleil, la lune et un mouvement d'étoiles, alors que l'étoile tombera sur la terre et que nous contemplerons la bienheureuse Vierge Marie couronnée d'étoiles, nous saurons que la fin des temps est proche et nous nous rappellerons surtout que nous ne sommes pas faits pour ce monde, mais que nous sommes faits pour le royaume des cieux. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, alors qu'elle nous présente l'enfant, puissent les mages qui présentent leurs offrandes nous venir en aide pour nous offrir, nous aussi, en cette messe et nous recevoir du bon Dieu qui nous a créés pour la vie éternelle. Ainsi soit-il.